Donc, à l'issue de cette longue, riche, enrichissante journée, on a retenu un certain nombre de points sur lesquels on aimerait donc revenir et faire une sorte de synthèse voilà, et réfléchir avec vous sur quelques points. Donc, on fera une sorte de ping-pong entre Bénédicte et moi. Alors, peut-être revenir sur la notion que Souleymane Bachir-Diagne a évoquée lors de sa leçon inaugurale du musée à venir comme la demeure des mutants, comme la maison des mutants. Et la vie des mutants, qui est censée être celle des œuvres d'art, avec cette idée d'ontologie dynamique, et ce qu'il a appelé une cosmologie de l'émergence continue, avec l'idée que les œuvres d'art ou ces objets sont inscrites dans une cosmologie qui vise à une plus grande abondance de vie, à une plus grande force de vie, et que l'objet n'est pas inerte, il récapitule en lui une sorte de flux créateur, et qu'il est la traduction dans un langage plastique de l'élan vital. Et cette idée, donc, elle nous semble absolument importante de la vie des objets, de la vie et de l'esprit des objets. Les objets ne sont pas inertes, ils sont vivants. Et l'œuvre créée aussi ne prétend pas être éternelle. Elle est engagée dans un cycle, une économie régénérative. Elle naît, elle meurt, elle renaît, elle meurt. Elle ne défie pas le temps. Elle y loge, elle y vit. Et d'où la nécessité donc de réparer, de soigner, pour faire le lien avec le travail et la réflexion de Kader Attia. Et que la réparation ici est une revivification permanente.
Oui, donc on a été très frappé par cette idée de maison des mutants et de cette primauté des objets, comme réserve, de potentiel. Et la première table ronde s'est éloignée de cette idée de vie pour partir dans la rhétorique, et en particulier dans la rhétorique de l'universel qui nous a semblé, dans cette très excellente première table ronde et dans les échanges excellents qui ont lieu, qui nous a semblé être en effet un carcan. On a l'expression de camisole de force a souvent été évoquée. Et on a eu l'impression, pendant la table ronde et en dialogue avec le premier exposé de Souleymane Bachir-Diagne, qu'il fallait vraiment faire quelque chose contre cette rhétorique, ce bouclier de l'universel ou de l'universalité qui nous empêchait probablement de penser toutes sortes d'autres configurations possibles, telles qu'elles ont été d'ailleurs déclinées au cours des tables rondes ultérieures. Donc l'exposé notamment de Victor Klass, qui a montré comment il était important de multiplier les foyers d'énonciation de l'universel, peut-être de laisser cette idée, mais de lui laisser la place d'essaimer, de se pulvériser au sens positif du terme, sans disparaître complètement, nous a paru intéressante et mérite sûrement d'être creusée. Aussi l'idée de rendre le monde au monde, c'est-à-dire de le rendre là où il peut être. Et bon, les trois interventions allaient dans le même sens, avec aussi cette opposition peut-être un peu forcée qui a eu lieu lors de la première table ronde entre l'humanisme et l'universel, avec un humanisme qui se mettrait davantage que d'autres formes à l'école de l'autre. Mais j'aimerais bien reprendre ce que disait Nadia Yala, c'est-à-dire qu'enfin, en tout cas nous, me semble-t-il, Felouen, on n'est pas non plus comme vous, Yala, des défendeurs des ismes, et qu'on préfère les nuances de gris aux grosses machines rhétoriques.
Et puis, il y a eu cette intéressante discussion sur l'objet comme diaspora, ou sur la diaspora des objets, avec l'idée de l'identité multiple et composite des objets, avec l'idée aussi d'une historicité, donc ces objets qui ont voyagé, qui ont pérégriné, qui ont été affectés donc par leur voyage, qui ont été affectés par le regard des autres, par les multiples strates de signification, et quelle était finalement leur identité ultime, à quel lieu ils appartenaient, est-ce que le retour, c'était un retour du même ou d'un même changé, est-ce que du fait de cette diasporisation de l'objet, on pouvait les revendiquer comme étant d'un lieu, n'était-il pas donc désormais de plusieurs lieux, et cette problématique, elle se croisait avec l'idée du musée universel, et ce qu'on a retenu, c'est suggestion de Malik Ndiaye à un droit à la métamorphose des objets, et que les objets du patrimoine africain avaient aussi le droit à cette identité donc métamorphique, dynamique, et ce n'est pas parce que cette identité serait dynamique qu'il ne serait pas moins des objets du patrimoine. Donc là aussi, on rejoint l'idée de la vie des objets et surtout la notion de droit au changement, droit à la métamorphose, droit au mouvement.
Et ce qui a été abordé dans la même table ronde par Émilie Salaberry et Félicité Bodenstein, et qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est cette question complémentaire, d'une part, de l'absence du patrimoine. Oui. Quelles sont les stratégies, quelles ont été, et on espère que ça va prendre fin, mais quelles ont été pendant plusieurs décennies les stratégies de compensation face à des absences de patrimoine, alors que l'investissement des populations, l'investissement local, et l'exemple de Félicité, c'était celui du Nigeria, est extrêmement important. Donc ça nous paraît essentiel de continuer de penser à la fois la présence de ces collections tant qu'elles sont ici, mais de continuer de réussir à penser leur absence, au même titre que Dan Hicks propose de penser les typologies de la prise. Donc il faut penser aux modalités de l'absence et aux stratégies de l'absence. D'une part, ça nous paraît être un chantier important à creuser. Et d'autre part, dans l'intervention d'Émilie Salaberry, l'idée que ces objets ne sont pas assignés aux frontières créées à l'époque coloniale, mais que bien sûr, ils représentent des régions. Et que, si je peux me permettre de citer l'atelier que nous avions mené à Dakar il y a un an, quelqu'un disait... À l'occasion de la question de ce que pourraient produire les objets si on les restituait, quelqu'un disait que ça permettrait d'abolir Berlin. Abolir Berlin, ça voulait dire que si on restitue, par exemple au Mali ou au Niger, des objets qui appartiennent à ces régions avant les séparations, ces frontières artificielles créées à la conférence de Berlin, on pourrait les refaire circuler à la sous-échelle du continent, les faire circuler autrement, et ça permettrait à chacun de reprendre conscience mieux que, par exemple, on appartient à une culture qui est le long du Niger et non pas soit malienne, soit ni du pays du Niger, etc. Donc l'idée que ces objets, en effet, n'ont jamais été pensés dans les frontières coloniales, mais que leur retour pourrait permettre d'effacer, de gommer la violence de ces frontières avec lesquelles on est obligé de faire pour le moment.
Et la question du statut des objets, et également celle de la vie et de la mort des objets, a été reposée par Simone Diamy, qui a posé des questions difficiles et aporétiques. Donc, avec l'idée de dire, ces objets, si on consent à l'idée qu'ils changent de statut, d'une part, et qu'ils ont changé, est-ce qu'ils sont autres en changeant de statut? Est-ce qu'un masque baoulé devient autre chose qu'un masque baoulé, même s'il change de statut, même si on considère que voilà, il est passé par un processus de mutation et de mouvement. Et est-ce qu'une ancienne signification, elle meurt? Donc il y a cette idée de quel est le statut de l'ancienne signification et comment les morts peuvent-ils revenir? Et si les morts reviennent, dans quel lieu? Dans quel lieu? Et donc en posant la question des questions antécédentes au musée. Ici, on a posé la question du musée, mais peut-être avant de poser celle du musée, peut-être fallait-il s'interroger sur ce qu'on allait faire de ces objets, quelle était leur destination finale, au vu de quelle fin. Donc, c'est aussi la question de la resocialisation. Donc, comment est-ce qu'ils réintègrent un univers de sens, une société contemporaine, comment on les reconnecte à des problématiques, avant de poser la question de l'écologie. Donc ça a été un moment intéressant de la discussion. Et toujours cette idée de vie et de mort, abordée par peut-être Kader Atia dans une dimension autre, qui est celle de la dépossession et de la réparation. Réparation, parce qu'il y a eu dépossession, et réappropriation, parce qu'il y a réparation, en liant les trois. Et la réparation comme un mouvement de l'existence et un mouvement qui garde la mémoire de la blessure de l'objet. Et avec cette idée qu'il y a une obsession de l'effacement de la blessure dans l'histoire contemporaine, et ça nous a fait penser à cet art japonais de la réparation des porcelaines, donc qui répare les porcelaines avec un fil, avec un laquais d'or. Donc la réparation garde la trace de la blessure dans le kintsugi. Donc on répare, mais il y a la mémoire de la blessure qui est là, qui est visible, et peut-être même on la sublime d'un point de vue esthétique en y accolant une fine une lanière d'or. Et l'insistance avec cette idée que ces blessures, en beau être immatérielles, elles perdurent, et elles ont un impact dans la psyché des peuples dépossédés. Et ça nous a aussi fait penser à un travail de Karima Lazali sur le trauma colonial, qui montre que ces blessures, si elles ne sont pas travaillées par de la parole, par de la représentation, elles ont un impact sur des psychés contemporaines. Donc ce n'est pas juste de vieilles histoires qu'on ressasse, et le travail de réparation ici, il est opérant, et puis il peut reconstituer un sujet. Et du coup, l'acte de restitution donc, aussi ouvre à une énième narration, c'est-à-dire que là, on reprend le travail de construction de récits autour de ces objets qui n'est pas achevé.
Je voudrais ajouter, dans le cas du travail et de la réflexion de Kader Attia aussi, cette chose qui est difficile pour nous autres qui sommes des acteurs de parole, qui parlons et qui écrivons, mais il me semble que la finesse du travail, ou une des finesses du travail de Kader Attia, c'est de traiter ces questions en objet, c'est-à-dire pas en texte, pas en parole, mais aussi en fabriquant des objets qui traitent la question eux-mêmes, puisque les objets sont eux-mêmes des potentiels de soins, des potentiels de réparation. Et je crois qu'on a aussi tous beaucoup à gagner en faisant confiance aux objets et aux créateurs qui, sans parler, sans être éloquents, sans sortir leur bataillon rhétorique, réussissent par une gueule cassée réparée, par ces photos sur les pièces réparées, à en dire beaucoup, peut-être parfois beaucoup plus que ceux dont les mots sont capables, les mots dont on a vu beaucoup qui pouvaient être pernicieux ou pervers ou cachés, en cacher d'autres et cacher d'autres intentions.
Et peut-être acheter juste un mot sur la réparation, c'est que cette réparation-là, on la constate au sein des sociétés africaines où les objets ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Ils ont des cycles de vie beaucoup plus longs que ceux que l'économie néolibérale industrielle souhaiterait qu'ils aient, où énormément d'objets dans l'espace social sont réparés, certains sont transformés, récupérés, mais donc sont ramenés à la vie, mais dont on renforce la durée de vie, dont on allonge la durée de vie. Et c'est peut-être aussi une forme de résistance contre l'épistémé de l'objet à court terme qu'il faut renouveler comme dans une industrie qui a besoin d'une obsolescence rapide de tous les objets pour se maintenir en vie. Donc il y a peut-être aussi une réflexion, un lien à faire entre cet allongement de la durée de vie et de la durée de vie des objets et une forme de ralentissement que les sociétés contemporaines, industrielles, appellent de leur vœu dans une forme de production effrénée donc de l'objet et de la chose.
Par ailleurs, l'intervention autour d'Alain Godonou nous a rappelé, et toute la table ronde avec lui et avec ces deux co-intervenants et la modération nous ont rappelé que le musée était une possibilité parmi d'autres dans une pluralité de dispositifs. Et en particulier, l'exemple qui a été donné était celui de l'ouest du Cameroun, du pays Bamileke, mais que dans d'autres cultures. Et finalement, ça reprenait aussi ce qui a été dit dans la dernière table ronde. L'éventail de possibles pour abriter des objets aujourd'hui a été déjà dans le passé considérable et peut l'être aussi à l'avenir, et qu'il ne faut pas se priver de penser ces possibilités, ces dispositifs multiples, ou ce que Felwinsar aime appeler les écologies différentes ou les pluralités de dispositifs de conservation. Et puis pour terminer, on l'a encore bien présente en mémoire, la dernière table ronde qui pour moi était vraiment parce qu'on était face à trois types de musées différents, une fondation, un musée, un affreux musée occidental à Oxford, et puis un musée tout récent mais qui a déjà une longue histoire à Dakar, avec ces trois formats différents et l'énergie particulière des trois intervenants. On a senti combien nous étions maintenant autour de 2020 à un moment de changement de paradigme pour ces musées, et que un grand nombre de possibilités s'ouvraient qui rendaient bien plus palpable cet avenir que nous appelons nos voeux, qui serait celui d'une restitution au moins d'une partie significative ou des objets les plus réclamés du patrimoine africain.
Et toujours dans cette dernière table ronde, cette idée de réimaginer l'anthropologie muséale et d'être en mesure de faire de l'exposition le lieu d'un souvenir du présent, documenter le présent sans souvenir, faire le lien entre le musée et les questions d'ordre géopolitique, la mobilité, les frontières, la frontière comme lieu de filtrage, de tri, de choix, de différenciation de l'humanité en différents types, et peut-être ça évoquait chez nous aussi cette dichotomie entre toute une théorie d'un universel qui est énoncé, dont Victor Klass se disait qu'il tirait sa légitimité de son énonciation, et le traitement réel d'humains qu'on appelle migrants, qui étaient loin des valeurs que cet universel-là énonce. Et là, on avait là, eux, quelque chose en miroir qui était assez intéressant de regarder et d'observer. Et cette idée aussi que, bah, oui, une théorie du don, du contre-don, mais aussi une anthropologie du pillage, du vol, de la spoliation, elle était aussi à faire. Donc si on voulait éclairer ou rendre intelligible un certain nombre de dynamiques. Et un point aussi important qui a particulièrement retenu notre attention, c'est que object of knowledge, des objets qui sont des supports de savoir. Et c'est ce qu'un certain nombre de conservateurs, dont Malik Ndiaye, ici présent, nous disait à Dakar, bah, que des filets de pêche qu'on retrouve dans des réserves encodent des algorithmes, des fractales, et que dans la récupération de ces objets, il y avait le travail de déchiffrement, de savoir qui existait, qui était là, qui n'était pas encore assez déchiffré, et qu'il fallait envisager ça, qu'il fallait aussi envisager la perspective épistémologique. Là, on a des bâtons de messages, des cartes, de la divination, une lecture du futur, donc qui ramène cette idée que l'objet est une écriture et qu'il est aussi le support d'un savoir, comme dans le travail de Bachir sur l'art africain comme philosophie, où la statuaire est aussi vecteur d'une pensée, et où la statuaire est aussi une écriture dont les contenus restent à déchiffrer. Donc la question des savoirs et la question des épistémologies, absolument importante.
Et avant de donner le dernier mot à Felwinsar, je voudrais reprendre les trois termes que vous trouvez dans que Marie-Cécile Zinsou a cité dans son livre d'or. Merci, pourquoi, fierté, et j'aimerais les inverser. D'abord, fierté, peut-être à la fin de cette journée, d'avoir eu le sentiment d'avoir fait une belle journée de travail grâce aux interventions des uns et des autres. On est très fiers, je crois, on peut dire ça, Felwine, que les choses aient si bien marché, que vous ayez été, vous, auditeurs et auditrices, présents et fidèles aussi à ces débats. Le pourquoi on a fait ça, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait maintenant, peut-être dans le contexte parisien, nous sommes nous-mêmes non-parisiens, Felwine, dans le monde entier, pour ma part à Berlin, on avait l'impression qu'à Paris, ce type de discussions qui sont peut-être plus courantes en Afrique ou plus courantes à Berlin pouvaient bien prendre forme. Et pour ça, donc, la réponse à pourquoi, bah, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait. Et puis, je finis par le premier. Merci, un très, très grand merci à vous tous d'être venus, aux intervenants, d'avoir pris le temps de préparer leurs interventions aussi soigneusement et de s'être tenus au temps. Aux modératrices et aux modérateurs, à Patrick Boucheron, à Barbara Cassin, à François-Xavier Fauvel et à Philippe Descola, d'avoir distribué la parole et de l'avoir accompagnée et soignée pour qu'elle soit équilibrée. Et un merci aussi aux équipes du Collège de France, sans lesquelles ni la technique ne fonctionnerait, ni les moments invisibles pour chacun d'entre vous, mais qui pour nous sont si importants, les moments de pause. Donc un grand merci à Véronique Gudin et à Léa Saint-Raymond, notamment. Et je repasse la parole pour la dernière phrase à Felwinsar.
En fait, on avait intitulé ce colloque Musée Utopia, et les chemins imprévisibles des conversations nous ont menés, me semble-t-il, à la fin de la journée, donc à travers tous les questionnements qui ont été les nôtres, mais il m'a semblé que vers la fin, il y a une question qui est apparue, à ce moment où Marie-Cécile Zinsou réfléchit sur l'histoire et sur les régimes d'historicité en disant l'histoire du continent, en tout cas celle du Bénin, ne démarre pas en 1892. Il y a une réflexion à mener sur des formes de monstration avant. Là, un saut vers le passé et rapidement un saut vers le futur, on sera au cœur du monde sur une ligne qui sera l'endroit le plus densément peuplé du monde. Donc il faudra imaginer un lieu qui puisse, au moment donné, accueillir le monde dans sa densité, dans sa complexité, en prenant en compte des questions énergétiques. Mais ce que j'ai entendu là, c'est qu'il y avait l'idée de dire que, bah, il y avait une sorte de, je ne dirais pas d'injonction, mais de suggestion à réinventer les formes et une réinvention continue. L'idée des conteneurs qui s'emboîtent pour être en mesure de tout le temps se réinventer et de se réadapter. Et je pense que la métaphore est puissante. Donc on est passé du musée Utopia peut-être au cosmotopia. Il fallait repenser tout un ensemble d'espaces. Et surtout, ce que nous avons cru retenir, c'est qu'il y avait là la question du nouveau régime d'historicité à inventer pour sortir définitivement du temps post-colonial, et que peut-être un nouveau temps devait être ouvert avec une nouvelle terminologie. Donc si mon Diamine me parlait des mots, nous pensons dans les mots, et que peut-être ce petit chemin à travers ce colloque, ben, ou bien à travers cette journée, ben, ouvre à l'idée de que le monde, pour peut-être Césaire, l'œuvre de l'homme n'est point finie, elle ne vient que de commencer, et il n'est point vrai que nous n'avons rien à faire, et que l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de l'humain ne fait que démarrer. Je vous remercie. Merci.